nous allons parler du numéro 134 d'Amoris Laetitia. Je reprends un petit morceau de ce paragraphe. Cette forme si particulière de l'amour qu'est le mariage est appelée à une constante maturation. Et plus loin, dans ce même paragraphe, l'amour qui ne grandit pas commence à courir des risques. Alors, on va un peu mieux comprendre ce que le Saint-Père nous dit quand il dit, par exemple, que le mariage est une forme d'amour particulière. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Les conjoints vont se donner leur consentement devant témoins. Donc, il y a une certaine fierté à rendre publique leur union. Il faut qu'ils aient totalement confiance en l'autre et qu'ils donnent leur confiance. Comme dit le Saint-Père, le couple à travers le mariage exprime la décision de s'appartenir l'un à l'autre. S'engager à l'Église devant Dieu est un pas supplémentaire. Il laisse à penser que les conjoints croient que, devant leur faiblesse humaine, Dieu peut les aider. Il les aide à s'aimer mieux et à rester fidèles. Le cadre du mariage permet à l'amour de croître. Il y a plusieurs façons à apprendre à aimer, mais le mariage a sa propre pédagogie. D'abord parce que la relation est à deux, elle oblige de se frotter l'un à l'autre au quotidien, d'appréhender les désirs de l'autre et de les faire exister avec ses propres désirs, de vouloir le bien et le bonheur de l'autre, ce n'est pas toujours facile, et d'accueillir et d'élever des enfants qui demandent aussi de choisir à deux la manière de les aider à grandir. À travers ce mariage, donc, le pape nous dit que l'amour est appelé à une constante maturation. L'amour qui ne grandit pas commence à courir des risques. Effectivement, si quelquefois on commence par aimer l'autre parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous apporte ce qu'il nous manque, nous nous apercevons que l'amour est appelé à progresser, à s'approfondir, à devenir de plus en plus gratuit. On apprend à aimer l'autre pour ce qu'il est, non plus pour ce qu'il nous apporte. Mais c'est facile à dire, pas si facile à vivre. Pour construire cet amour, j'ai envie de nommer quatre états qui permettent de faire croître cet amour. D'abord, pas mal d'humour par rapport à nos faiblesses, à nos limites. Ensuite, certainement prendre du temps ensemble et pouvoir partager certaines choses ou sentiments qu'avec lui, qu'avec elle. Ça reste le secret du couple et ça permet de vivre une complicité qui va s'approfondir. La connaissance et la pratique des langages de l'amour explicités par Gary Chapman, sur lequel je reviendrai, l'accueil des enfants qui permet de démultiplier l'amour des conjoints et d'éviter que les conjoints se replient sur eux-mêmes. Et puis oui, aussi se bouger, se donner pour les autres au-delà de sa propre cellule familiale. Tout ce que les conjoints vivent en dehors de leur famille enrichit aussi leurs relations. Les cinq langages de l'amour, selon Gary Chapman, et qui nous servent quand même bien au quotidien, sont la tendresse, ou les gestes physiques, les moments de qualité, les paroles valorisantes, les services rendus et les cadeaux. En fait, chacun des conjoints a sa façon de se sentir aimé. Savoir identifier et apprendre le langage d'amour de l'autre afin de pouvoir remplir son réservoir affectif est nécessaire. Cela demande quelquefois un effort, ça demande de prendre sur soi pour aller vers le langage d'amour de l'autre et pour pouvoir le sécuriser dans le fait qu'il est aimé. Une fois sécurisé, l'homme peut s'accepter tel qu'il est, s'aimer et du coup mieux aimer l'autre. Alors voilà tous les côtés positifs pour approfondir notre couple, tous les trucs qui sont nécessaires pour enrichir l'amour et le rendre de plus en plus solide et fort. Mais à travers ma propre expérience de couple ou à travers mon travail en tant que conseillère conjugale et familiale, on s'aperçoit vite que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'aventure conjugale est jalonnée aussi de moments difficiles, d'égoïsme, de volonté d'avoir raison, de peur de ne pas se sentir reconnu, d'infidélité et bien d'autres choses encore difficiles. Ce qui amène les conjoints à se blesser mutuellement. Aucun amour n'est parfait. On peut être déçu, on peut être perdu, ne plus avoir confiance. Mais les crises font partie de la vie. Et on sait qu'il y a de la joie si on peut pardonner, dépasser, redonner sa confiance au-delà de la blessure. Il y a de la joie, une grande joie, entre deux personnes qui ont conquis quelque chose ensemble qui leur a coûté un effort commun. Ainsi, c'est vrai que ces moments de crise, de blessure, peuvent permettre un approfondissement de l'amour. Je vois, lors de mes entretiens, des personnes fières de pouvoir repartir avec un horizon éclairci. Ils ne ressassent plus, ils font un nouveau projet à deux, ils repartent confiants dans leur avenir conjugal. Ainsi, leur amour a pu s'enrichir de ces moments où ils ont travaillé à dépasser leur crise. Ils ont appris à mieux connaître l'autre et à mieux se connaître dans ces moments-là. Ce nouvel élan s'ancre dans un amour soigné, guéri. Et pour les couples qui croient que Dieu est présent au sein de leur amour, sachant que leur amour est limité, ils ont invité le Christ qui est efficace dans leur couple. Dieu est toujours présent, il agit, il vient soigner, guérir, sauver les blessures d'amour. Sûrs de cet amour inconditionnel et illimité, les amoureux prennent les dispositions pour le laisser agir et ainsi renforcer leur amour. L'aventure conjugale a cette chance d'avoir le temps. Comme le disait le pape, l'amour qui ne grandit pas commence à courir des risques. Effectivement, l'amour ne peut stagner, sinon il s'éteint. L'amour profite du chemin de la vie pour grandir, s'approfondir, se purifier, dilater notre cœur. C'est pour cela qu'il faut en prendre soin et s'en occuper. L'amour s'apprend et n'a pas de limite car il est habité par un amour supérieur. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.